Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur plusieurs points chauds en Afrique, en s'appuyant sur les dernières infos d'Africa Press.
Oui, au programme, des alliances régionales, pas mal de tensions diplomatiques aussi, des enjeux de sécurité.
Et puis les jeux politiques internes, bien sûr.
Exactement.
L'idée, c'est vraiment de décrypter ensemble ces dynamiques. Elles sont complexes, parfois liées entre elles, et elles façonnent l'actualité du Sahel jusqu'à l'Afrique australe. Prêt ? Alors allons-y.
C'est parti.
On commence au Sahel. Il y a une nouvelle alliance là qui se dessine sur le plan économique et politique.
Ah oui ?
Le Mali et le Niger, ils ont signé un accord, c'était le 16 mai, pour livrer du carburant au nord du Mali jusqu'à fin 2025.
D'accord. Une zone qui en manque cruellement, j'imagine.
Exactement. C'est une zone qui souffre de pénuries graves depuis que les relations se sont dégradées entre Bamako et Alger. Alger qui fournissait traditionnellement via le commerce parallèle, quoi.
D'accord, je vois. Et l'accord, il dit quoi exactement ?
Il fixe les quantités, les tarifs. Mais la question, c'est est-ce que c'est viable, tout ça ?
Bah oui, c'est là que ça devient. Enfin, c'est intéressant. Parce qu'au-delà de l'économie pure, il y a une dimension politique très forte. Au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Niger, on a l'impression qu'il considère le nord malien presque comme sa 9e région, si on veut, à soutenir.
Ah oui, carrément.
Mais attention, hein, la mise en œuvre, elle est fragile. D'abord, la sécurité des convois, c'est un vrai casse-tête.
Surtout dans certaines zones, c'est clair.
Et puis, il y a autre chose. La capacité de raffinage du Niger, elle est limitée. Elle couvre à peu près la moitié de ses propres besoins nationaux.
Donc, pour livrer le Mali en plus.
Ben voilà. C'est un défi logistique énorme pour garantir des livraisons stables. D'ailleurs, les professionnels maliens du pétrole, le GMPP, ils s'inquiètent. Ils demandent des garanties, notamment sur la sécurité.
On les comprend.
Et ce n'est pas la première fois. Hein. Niamey avait déjà aidé Bamako l'an dernier avec 150 millions de litres de gasoil pour une crise énergétique. Mais là, l'échelle, le contexte politique, c'est différent.
Oui, ça montre bien ces interdépendances, mais aussi les fragilités dans la région. Restons sur les relations interétatiques, mais changeons de région. Direction l'Afrique de l'Est.
D'accord.
Là, on a un aveu de taille. Le gouvernement kényan qui reconnaît avoir coopéré avec l'Ouganda.
Ah oui.
Pour quoi faire ?
Pour l'enlèvement de l'opposant Kizza Besigye, à Nairobi, en novembre 2024.
Ah, quand même ?
Oui.
Le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, il a parlé d'intérêt national. Besigye, lui, il a été transféré clandestinement en Ouganda.
Kizza Besigye, 68 ans, l'ancien médecin de Museveni devenu son principal opposant depuis 1999.
C'est ça. Et il est accusé de quoi au juste ?
De complot. Pour renverser le gouvernement par la force des armes. C'est une accusation très grave, passible de la peine capitale en Ouganda.
La peine de mort ?
Oui. Il est détenu à Kampala. Il a même fait une grève de la faim, mais ce qui est vraiment notable ici, c'est l'implication ouverte du Kenya. Nairobi, qu'on voit souvent comme un pilier de stabilité, de droit.
Oui, ça écorne un peu l'image.
Ça secoue, oui. Ça pose des questions sur l'image diplomatique de Nairobi, sur l'indépendance de la justice kényane aussi. Et puis, est-ce que c'est une nouvelle norme de coopération sécuritaire régionale qui se dessine, où les droits humains passent un peu au second plan ?
C'est inquiétant.
Son avocate, Martha Karua, elle-même expulsée de Tanzanie récemment, d'ailleurs elle parle d'arrangements hors la loi entre États voyous, elle dénonce une tendance régionale à la répression des voix dissidentes.
Pendant ce temps, si on revient au Mali, le gouvernement de transition, lui, via son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il affirme avoir repris le contrôle total du territoire.
Bah oui, hein, le contrôle total.
Oui. Passant de 40% à 100% selon eux depuis le départ de la mission de l'ONU fin 2023. Bamako insiste beaucoup sur de nouveaux principes pour la coopération internationale.
Lesquels ?
Respect de la souveraineté, respect des choix stratégiques maliens et défense des intérêts maliens. Très axé souveraineté.
D'accord. C'est un discours fort, cette affirmation de contrôle total, de souveraineté restaurée. Mais ça contraste quand même pas mal avec la réalité sur le terrain telle que rapportée par certains observateurs.
C'est-à-dire ?
Ben, les attaques djihadistes, elles persistent. Dans le nord, dans le centre, certains analystes suggèrent même que le départ de la MINUSMA, la mission de l'ONU, a peut-être réduit les capacités de surveillance, créé un vide.
Donc, un décalage entre le discours et la réalité vécue.
Voilà. La vraie question, c'est de savoir si cette affirmation de contrôle se traduit par une amélioration réelle de la sécurité, des services pour les populations locales. Elle reste confrontée à l'insécurité au quotidien, quoi.
Ce décalage est souvent un enjeu, c'est vrai. Bon, changeons de registre. La lutte antiterroriste en Somalie.
Oui.
La Maison-Blanche a diffusé une vidéo d'une frappe récente. Ils affirment avoir tué 10 membres d'Al-Shabaab. Et ils indiquent que plus de 100 combattants auraient été éliminés depuis le début du mandat de Trump. L'Africom aurait mené plus de 30 frappes pendant cette période.
Oui, il y a une intensification claire et un discours de fermeté. On vous trouvera et on vous tuera. C'est le message. Mais bon.
Mais Al-Shabaab reste actif. L'attaque au mortier sur Mogadiscio en février l'a encore montré. Ils ont toujours une capacité de nuisance. Et puis, il y a l'impact de ces frappes.
Sur les civils, bien sûr, mais aussi sur la perception locale. Une étude du Civic, par exemple, souligne que ces frappes peuvent nourrir la colère, la méfiance. Et puis, il y a ce rapport de l'ONU de février 2025.
Qui dit quoi ?
Il fait état de liens présumés entre les Shabaab et les Houthis du Yémen. Des rencontres ont eu lieu en juillet-septembre 2024. Ça complexifie encore la donne.
Ah oui, effectivement.
Donc la stratégie purement aérienne, elle a ses limites. Et l'impact sur les civils reste une préoccupation majeure pour les ONG. Souvent déconnectées des priorités locales, qui sont la sécurité de base, les services, la gouvernance.
Je vois. On file au Tchad maintenant. Autre point de tension, mais interne cette fois.
Oui, effectivement.
L'ancien Premier ministre, Succé Masra, il a été inculpé et placé en détention provisoire.
Succé Masra, et pourquoi ?
On l'accuse d'avoir incité au massacre de 42 personnes à Mandakao la semaine dernière. L'accusation se base sur un enregistrement audio.
Un enregistrement ?
Oui, qui daterait de 2023, où il appelait les populations du Sud à se défendre contre des violences.
D'accord. Et la défense, elle dit quoi ?
Elle rejette tout ça en bloc. Elle parle d'instrumentalisation politique, de pression qui viendrait du sommet de l'État. Elle souligne que cet audio, il a été remis aux autorités bien avant les faits de Mandakao, donc une affaire très politique.
Clairement. Masra pourrait rester détenu jusqu'à un an. Son parti, les Transformateurs, conteste la légalité de la détention. Ça s'inscrit vraiment dans un contexte politique tendu, post-électoral, et ça va être un test pour l'indépendance de la justice tchadienne.
Affaire à suivre donc. Terminons ce tour d'horizon à Washington avec une rencontre diplomatique tendu, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Entre qui et qui ?
Le 21 mai, entre Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Trump et Ramaphosa, ambiance ?
Pesante. Glaciale même. Surtout quand Trump a diffusé des vidéos et a évoqué un prétendu génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud. Ah oui, le retour de cette rhétorique. Ramaphosa a dû réagir, j'imagine.
Oui, fermement. Il a nié tout soutien à la haine, réfuté les expropriations sans compensation, souligné que la criminalité, elle touche toutes les communautés en Afrique du Sud, pas seulement une.
Il a essayé de recentrer le débat, j'imagine.
Exactement. Il a plaidé pour une coopération renforcée avec les États-Unis, technologie, investissement. Il faut dire que les USA restent le deuxième partenaire économique de l'Afrique du Sud, malgré tout.
Même si les relations étaient déjà tendues.
Très tendues, oui. Trump avait expulsé l'ambassadeur sud-africain en mars, donc le contexte était difficile. Ramaphosa est venu avec une délégation assez diverse d'ailleurs.
Ah oui ?
Oui, il y avait le ministre africanaire John Steenhuisen, les golfeurs Ernie Els et Retief Goosen, sans doute pour montrer un visage d'unité, tenter d'apaiser.
Une tentative de dialogue, malgré le froid.
C'est ça. Il a même invité Trump au G20 de Johannesburg. Mais bon, l'Afrique du Sud doit continuer à gérer ses perceptions internationales qui sont parfois très, très éloignées de la réalité locale.
Oui, c'est un défi constant.
Alors, en conclusion de ce tour d'horizon, on voit bien des dynamiques vraiment complexes.
Des alliances qui se reconfigurent au Sahel, des actions transfrontalières qui posent de sérieuses questions de souveraineté en Afrique de l'Est, le décalage entre discours politique sur le contrôle et la réalité sécuritaire vécue au Mali, les interventions externes et leur impact parfois contre-productif en Somalie, les crispations politiques internes au Tchad, et puis ces équilibres diplomatiques très délicats, comme entre Pretoria et Washington.
C'est un paysage très contrasté.
Tout à fait. Et il y a une question qui reste un peu en filigrane, je trouve, à travers toutes ces situations. C'est celle de l'efficacité réelle, au fond.
L'efficacité.
Oui. Dans quelle mesure les objectifs politiques qui sont affichés, que ce soit la souveraineté, la sécurité, la coopération, peuvent vraiment être atteints ?
Oui.
Face aux défis sécuritaires qui sont énormes, face aux rivalités politiques bien ancrées, et puis face aux réalités complexes que vivent les populations sur le terrain.
Entre les discours et la capacité à agir concrètement.
Exactement. Il y a souvent un monde. Et c'est là, dans cet écart, que se joue l'avenir. Bien au-delà des déclarations officielles, c'est une vraie matière à réflexion, je crois.